vision d'histoire.
Chers amis de Radio-Galilée, bonjour à Vision d'Histoire. Je m'appelle Martine Dumais. Il me fait plaisir de vous retrouver et de retrouver notre invitée, Mme Brigitte Collier, professeure associée au département des sciences historiques de l'Université Laval et chercheuse au Centre interuniversitaire d'études québécoises. Bonjour, Mme Collier.
Bonjour.
Merci d'être encore là cette semaine pour nous présenter, je dirais, ce magnifique ouvrage qui s'intitule « L'école au Québec, tout simplement », que vous avez co-dirigé avec Mme Dufour et Hamel, publié aux presses de l'Université Laval dans la très belle collection « Atlas historique du Québec ». C'est un ouvrage fort imposant et fort important, je dirais, puisqu'il y a une somme d'informations assez extraordinaires. Vous aviez expliqué la semaine dernière la genèse de cet ouvrage. On avait pu voir comment il y avait plusieurs enjeux en éducation tout au long de l'histoire. On s'était attardé plus précisément au 19e siècle avec la question des commissions scolaires et après ça au 20e siècle avec la fréquentation scolaire obligatoire en 1943. On a vu des systèmes qui sont un petit peu cloisonnés, anglo-protestants, donc franco-catholiques, et on a vu comment on essaie de faire une place ou une tentative donc faire une place aux minorités. On s'était arrêté là. Et il y a un groupe qu'on n'avait pas évoqué, qui est un groupe fort important. Et l'ouvrage lui fait une belle place. Toute la question des enfants autochtones et évidemment la question des pensionnats autochtones au Québec. Le chapitre s'intitule « Les pensionnats autochtones au Québec, sédentariser, civiliser et instruire » avec un point d'interrogation, bien évidemment. Comment vous présentez, comment ce chapitre-là présente cette question qui est fort importante et qui porte à discussion souvent?
Je dirais d'emblée, la recherche est encore largement en cours. Les sujets ne sont pas épuisés. Pendant quand même plusieurs années, les chercheurs ont beaucoup travaillé sur le régime français. On a maintenant plusieurs travaux qui traitent du 18e siècle, du début aussi du 19e, autour des écoles qui ont été créées auprès des nations domiciliées, que ce soit les nations iroquoises, abénakis et hurones, tenues, ce qui est intéressant, par un personnel enseignant d'origine amérindienne, formé aux États-Unis, ce qui est quand même ce qui est intéressant, avec, je dirais, en concurrence constante encore avec les missionnaires catholiques et d'autres dénominations chrétiennes qui veulent, eux aussi, développer leurs écoles. Pour le 20e siècle, effectivement, apparaissent, mais tardivement par rapport à l'ensemble du Canada, 6 pensionnats qui sont à la fois destinés aux élèves anglicans, aux élèves catholiques, qu'on retrouve à Amos, Sept-Îles, Pointe-Bleue, La Tuque. Ces pensionnats sont actuellement l'objet des recherches importantes. On a des éléments tout à fait essentiels qui ont été fournis par Madame Bousquet, mais je dirais, on n'a pas encore de travaux qui soient aussi approfondis, et c'est normal parce que le phénomène est plus récent, les archives sont pas facilement consultables. On n'a pas autant de travaux, je dirais, que ce qu'on peut avoir du côté de l'Ouest canadien, qui revient souvent, je dirais, dans l'actualité.
Et donc, dans ce chapitre, vous prenez la peine, donc comme pour tous les autres chapitres, on l'avait évoqué la semaine dernière, d'avoir une iconographie importante, d'avoir donc une situation de contextualisation qui permet de les mettre comme partie prenante de l'école au Québec.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait essentiel.
Donc, si le chapitre suivant s'attarde à l'école primaire, lieu d'enseignement et d'éducation. Et il y a plein de thèmes intéressants. Dans le fond, il faut tout de suite avertir nos auditeurs et auditrices qu'on ne pourra pas faire le tour de cet ouvrage qui a plusieurs centaines de pages, mais on va évoquer certains éléments. Et vous parlez notamment, puis là, ça m'a surpris, j'avais jamais envisagé l'éducation, cet aspect-là, de l'architecture des écoles.
Oui, ça, je pense que c'est un travail qui est mené actuellement par un chercheur de l'Université Laval, François Dufault, qui nous permet de voir comment la construction, le plan d'une école dit sur le projet et nous dit de la société. Et bien sûr, on a souvent, je dirais, de façon un peu folklorique, l'image de la petite école de rang, qui a son sens aussi et qui a été très nombreuse. Mais là, on a dans l'ouvrage, entre autres, toute une série d'analyses qui portent sur la ville de Québec et les écoles de la ville de Québec et qui nous permettent de voir comment les changements de civilisation font qu'à un moment donné, on a par exemple, moi ça m'avait fasciné quand le texte est arrivé, des écoles qui vont ressembler un peu à des usines. Et on sait aujourd'hui toutes les remises en question qui sont faites du plan des écoles, de l'utilisation des bâtiments. Alors, je pense que c'est effectivement un aspect qui est tout à fait important, c'est un chapitre qui témoigne aussi de nos préoccupations actuelles.
Tout à fait. Et dans le sens de préoccupations actuelles, il y a aussi toute la question de la place de l'enseignement de la religion à l'école.
Oui. Alors, il faut pas trop me faire parler de ça parce que c'est mon sujet de prédilection. C'est un élément qui est tout à fait essentiel. Nous avons pu établir dans cet ouvrage-là la comparaison entre catholiques et protestants en particulier. Ce qui est fascinant et ce qu'on oublie, c'est que même dans des projets qui ne sont pas forcément au 19e siècle, des projets qui ne sont pas forcément confessionnels, la religion, la place de la pratique religieuse est là. On va, par exemple, demander dans certaines écoles, on va vérifier si les enfants sont allés au culte le dimanche. On va intégrer des prières, on va intégrer la Bible. Donc, il ne faut pas imaginer pendant très longtemps une séparation, même pour des projets beaucoup plus séculiers, une séparation entre la religion et l'école. Ça fait partie de l'éducation.
Et l'école, à cette époque-là comme aujourd'hui, est un extraordinaire lieu de sociabilité.
Tout à fait. C'est là où on apprend, je dirais, à la base, la discipline, le respect, et s'organise toute une vie extrascolaire, parascolaire, que ce soit des associations, des groupes de musique. On fait participer les enfants des écoles aux fêtes religieuses, aux fêtes profanes, s'organise aussi des activités sportives, des jardins scolaires. Je pense aussi à tout ce travail qui s'est fait du côté des cercles des jeunes naturalistes qui vont sensibiliser les enfants, garçons et filles du reste, aux sciences naturelles.
Vous évoquez au début du 20e siècle une initiative particulière dont j'ignorais l'existence. En 1923, une école pour la vie, une approche nouvelle.
Oui, c'est un nouveau programme d'enseignement primaire, qui est développé par nul autre que Monseigneur Ross, qui était connu déjà, qui n'était pas encore évêque de Gaspé, mais qui s'était illustré comme principal de l'École normale de Rimouski, qui avait écrit un manuel de pédagogie. Et l'idée pour lui, c'est de limiter, je dirais, le gavage d'informations, l'apprentissage par cœur, pour au contraire favoriser la réflexion de l'enfant et le développement d'une démarche qui permettra après ça à l'enfant de mieux assimiler la matière.
Cette initiative nouvelle ou cette approche nouvelle ne semble pas avoir fait tant de petits que ça, parce que par la suite, on va revenir au par cœur pour beaucoup.
Oui, ça n'a pas été apprécié pour avoir regardé des dossiers d'élaboration. Il y a eu des critiques, c'est certain. En plus, il y avait un certain paradoxe, parce que l'idée qu'il avait aussi, c'était de donner une éducation de base aux enfants du primaire, mais et donc d'introduire une approche nouvelle dans la pédagogie. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui va défendre les programmes, les collèges classiques, qui ne sera pas favorable aux initiatives des frères qui veulent former des jeunes de familles moins aisées dans le cadre de ce qu'on appellera le primaire supérieur. Donc, il reflète de ce point de vue-là très bien une contradiction qu'on va retrouver souvent dans le haut clergé.
Brigitte Collier, tout au cœur de ces institutions, de ces lieux, il y a évidemment les jeunes, mais il y a aussi tous ces enseignants et enseignantes. Et il y a là quelque chose de fondamental dans notre histoire, la place qu'ont eu les communautés religieuses, la place qu'ont pris les laïcs au fil du temps. Il y a quelque chose, il y a un chapitre fort intéressant à ce sujet-là.
Oui, et je dirais, c'est tout à fait, d'actualité parce que ce n'est pas un métier facile, ça ne l'a jamais été, ça n'est pas forcément un métier reconnu à sa juste valeur. Et donc, on a pu retracer en un chapitre quand même assez copieux l'évolution de la formation, la situation, les conditions de travail des enseignants et des enseignantes. C'est un élément qui est tout à fait essentiel. Et c'est vraiment, j'irais, au fur et à mesure que se développe un système scolaire, on veut que la formation soit plus uniforme, que la qualification du corps enseignant soit vérifiée. Progressivement se mettra en place tout un système de formation. Au départ, c'est une formation un peu sur le tas, avec vérification par un examen, avant d'avoir la capacité d'enseigner dans les écoles, aussi bien les écoles protestantes que les écoles catholiques. On va voir aussi se développer les écoles normales, aussi bien du côté catholique que du côté protestant. Des écoles qui vont se multiplier au XXe siècle avec toujours en parallèle des classes d'application. Hein? Les futurs enseignants et enseignantes fréquentent l'école normale, sont pensionnaires. C'est pas un gros changement par rapport à l'école qu'ils ont fréquenté. Et régulièrement, donc, ils vont faire leurs preuves, je dirais, et apprendre leur métier en allant dans les classes. Donc, c'est un mode de formation qui va se développer et se renforcer, avec des différences importantes dans la mesure où on a été, du côté des franco-catholiques, plus, souples à l'égard des religieux et des religieuses, qui n'avaient pas besoin pendant très longtemps de passer l'examen de qualification, hein, mais progressivement, devant la pression aussi de la société, d'abord les frères et puis plus tard les religieuses ont développé leurs propres écoles normales pour leurs futurs recrues.
Et on s'aperçoit en lisant les chapitres que ce qu'on appelle aujourd'hui la féminisation de la profession n'a pas été toujours là.
Non, elle se développe, disons, dans les premières décennies du 19e siècle, les enseignants sont essentiellement des hommes. Et progressivement, les femmes vont entrer dans le système. Et dès 1831, on comptait 49% de femmes. Et ça va augmenter. Alors, pas forcément, je dirais, pour les bonnes raisons. On va pas se le cacher. On va chercher à embaucher des femmes parce qu'elles sont bien moins payées que les hommes, qu'on estime qu'on peut les licencier plus facilement parce que, du côté catholique, ce sont des jeunes filles qui, lorsqu'elles vont se marier, vont devoir quitter l'enseignement. C'est un métier qui leur est accessible, certes, mais ce sont des engagements qui sont très fragiles et on a des exemples très intéressants, entre autres dans des régions plus excentriques, je pense à l'Outaouais, entre autres, où on voit la condition de ces jeunes femmes anglophones qui sont facilement licenciées d'une année à l'autre. C'est vraiment des conditions difficiles. Et moi, je pense toujours... on réalise pas, là, très concrètement, mais des jeunes de 17, 18 ans, qui se retrouvent à des centaines de kilomètres de leur famille, hébergés dans une famille avec des conditions plus ou moins bonnes et qui font la classe donc aux enfants d'un village ou dans une école de rang.
Donc, l'image que vous nous présentez ressemble fort à ce que, dans notre imaginaire collectif, Arlette Couture a nourri avec les filles de Caleb et la série télévisée.
Oui, c'est vrai. Oui, il y a des liens et on sait que la situation est restée longtemps difficile, en particulier dans les écoles de rang. Et pour avoir cartographié personnellement les institutions, les écoles de plusieurs communautés religieuses, et de ce point de vue-là, j'espère que ce projet-là pourra se poursuivre. J'ai pu voir les négociations qui pouvait y avoir entre les religieuses et les commissions scolaires. On mégotait sur le logement. Les conditions étaient extrêmement difficiles. Les classes n'ont pas assez chauffé. Et y compris pour les hommes aussi, malheureusement, j'ai pas pu mettre la photo parce qu'elle était pas assez bonne, mais j'avais trouvé chez les Frères du Sacré-Cœur une école qui avait été ouverte, des classes ouvertes au-dessus d'un garage. Donc, vous avez la pancarte du garagiste et au-dessus des locaux qui ont servi d'école avant qu'on construise une école.
Brigitte Collier, on a parlé des lieux, on a parlé des personnes qui enseignent. Est-ce qu'on pourrait dire deux mots de la question de la pédagogie et des manuels?
Alors, je commencerai peut-être par les manuels, parce que les manuels ont été un soutien énorme pour des enseignants qui avaient peu de formation. Donc, ils ont été essentiels. Et c'est, les communautés religieuses vont se faire un honneur de publier des manuels. Ça a été vraiment carrément des entreprises éditoriales importantes. C'est un élément donc qui est tout à fait essentiel. Et en même temps, je dirais, on a eu différentes approches de la pédagogie générale. Et l'une d'entre elles qui a été mise en place au début du système scolaire, c'est l'enseignement mutuel. C'est-à-dire que dans des immenses classes, on avait un maître qui était aidé par les plus âgés des élèves Et donc, c'est un élément, ça a été une formule qui a été tout à fait importante, qui permettait, je dirais, entre guillemets, de faire du chiffre, et qui a permis au début de former quand même des instituteurs et des institutrices. Mais ça ne donnait pas de grande formation. Et avec les frères des écoles chrétiennes en particulier, eh bien, on a instauré et généralisé l'enseignement simultané, c'est-à-dire une classe, un niveau d'âge et de formation identique pour tous les élèves de la classe, ou à peu près. Évidemment, à l'exception des écoles de rang où on avait plusieurs niveaux dans la même classe.
Brigitte Collier, les conditions que vous venez de décrire ne sont pas faciles. On peut comprendre qu'à un moment donné est arrivée l'idée de mettre ensemble l'énergie de ces enseignants et enseignantes pour essayer d'avoir de meilleures conditions.
Effectivement. Et je dirais, il ne faut pas imaginer une situation du 20e siècle. Dès le milieu du 19e siècle, du côté protestant, on développe des associations professionnelles. D'instituteurs et bon, c'est la ville qui donne le là et qui réclame les instituteurs des villes qui demandent des conditions meilleures, mais ce seront des luttes infinies qui mettent en cause, je dirais, la différence entre les enseignants qui sont en ville, les enseignants qui sont en campagne, et on pense à Laure Gaudreau qui a essayé et qui a réussi à réunir les institutrices rurales. Il faut voir aussi, et c'est un élément que permet de bien mettre en valeur l'Atlas, c'est les inégalités salariales entre catholiques et protestants, qui sont énormes, et des disparités aussi qui se font selon le genre des enseignants. Ce sont des éléments qui sont essentiels et on le verra aussi sur les postes de responsabilité. Hein, les directions d'école qui vont plutôt aux hommes qu'aux femmes, c'est des éléments qui ont été tout à fait prégnants dans notre système scolaire.
On a parlé beaucoup du primaire, mais à un moment donné, des éléments de la société vont demander qu'on aille plus loin que le primaire. Et là, on va créer d'autres types d'institutions.
Oui, et ça, c'est, je dirais, c'est pas une nouveauté, puisque on avait déjà en Nouvelle-France le Collège des Jésuites, hein, qui a été fondé en 1635. Donc, je dirais un élément qu'il faut retenir et qui permet de faire la comparaison. La bourgeoisie européenne a misé sur les humanités classiques. Et de ce point de vue-là, je dirais, la formation que peuvent recevoir des anglophones et des francophones ici, à ce niveau de ce qu'on appellera le collège classique et le high school, c'est très proche. C'est très proche. Ils partagent une culture. Mais cette culture, c'est une culture élitiste, réservée aux garçons, et qui est privée. Donc, ça veut dire que des communautés religieuses enseignantes, des diocèses avec les petits séminaires, développent, tout particulièrement au 19e siècle, des collèges classiques. Avec, je dirais, des cursus qui sont soit très rigoureusement classiques, soit avec des options qui sont plus commerciales. On a des études récentes qui permettent de voir qu'il y a eu beaucoup plus de diversité qu'on pouvait l'imaginer. La diversité s'est gommée au 20e siècle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'était la seule voie d'accès à l'université. Et que le pensionnat, parce qu'on est sur la base toujours du fait qu'il faut mieux regrouper la jeunesse, l'isoler de la société pour bien la former, les pensionnats, le pensionnat est un système qui coûte énormément aux parents.
Et face à ce besoin d'école, donc secondaire, vous avez parlé de collège classique, des high schools du côté anglophone, il y a un moment donné que va naître une autre vocation, des institutions qui vont être plus en lien avec le marché du travail et non pas pour des études supérieures universitaires. Donc, le marché du travail va avoir une certaine influence sur l'éducation au Québec.
Oui, et je dirais que c'est dans la revendication qu'il va y avoir d'études plus avancées, mais plus adaptées à des populations moins fortunées, on va voir se développer, et ça c'est un élément qui a été développé du côté catholique en particulier, ce qu'on appelle le primaire supérieur. Ça c'est les frères, les communautés de frères enseignants qui vont le développer dans les années 20, c'est-à-dire de permettre à des jeunes dont les parents n'ont pas les moyens de financer le collège classique, de pouvoir développer, malgré tout, une formation plus avancée, ce qu'on appellerait aujourd'hui le secondaire, mais avec bien, bien des guillemets, et que cette formation-là soit intégrée à l'école publique catholique. Parce que ce qu'il faut retenir aussi, qui est très important, c'est que du côté anglo-protestant, le high school va devenir public. Au 19e siècle, on a des établissements privés, mais à Montréal, ce sera la commission scolaire protestante qui va prendre en main. Donc, il y a une accessibilité qui est déjà plus forte. Et les frères estiment, du côté catholique, qu'il faut permettre d'élargir la formation. Et pour eux, c'est une question d'équité. S'ils auront, si je prends les frères des écoles chrétiennes, dès le 19e siècle, ils fondent une académie commerciale à Québec qui est encore, si on va sur la rue Cook aujourd'hui, les murs sont toujours là. Il s'agit pour eux de former des jeunes à l'administration, au commerce, au génie civil. Ils seront critiqués, hein, mais ils seront soutenus par les francophones et ils vont recruter, on a des études précises là-dessus, des fils de petits entrepreneurs, des commerçants. Des fils de commerçants également.
Brigitte Collier, c'est tout à fait passionnant. On arrive déjà à la fin de la seconde émission. Cet ouvrage est tellement impressionnant. C'est un tour de force en lui-même. Vous avez arrêté l'ouvrage en 1960, à l'aube des grands changements. Je suis sûre que les auteurs et auditrices se posent la question, pourquoi?
On voulait, en fait, rendre au mieux compte de toutes les recherches qui s'étaient faites sur le 19e et la première moitié du 20e siècle. Ne pas survoler ces aspects-là, parce qu'en plus, je dirais, on a des éléments qui sont là, qui vont, je dirais, devenir tout à fait critiques et critiqués à partir des années 50 en particulier, et qui vont focaliser toutes les réformes qui vont se faire dans les années 60. Donc pour nous, c'était essentiel de prendre l'espace qu'il fallait pour bien traiter, bien rendre compte de ce qui s'était fait, afin de poser des bases pour des études, après ça, des synthèses qui viendraient enrichir la période la plus contemporaine.
Brigitte Collier, j'ai envie de vous dire mission accomplie, parce que c'est vraiment un tour de force que vous avez réalisé avec votre équipe. Et on comprend tellement bien pourquoi on en est venu à avoir besoin de faire des changements. Mais l'autre chose que moi j'ai trouvé très intéressante, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de réformes aussi qui sont mises en valeur. On n'a pas fait juste des réformes à partir de 1960. On voit tout le chemin accompli au fil des siècles. Merci beaucoup, Brigitte Collier, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous avez co-dirigé aux éditions des Presses de l'Université Laval dans la collection Atlas historique du Québec, L'école au Québec, formidable ouvrage qui est paru tout récemment. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
Merci à Thierry Boutin pour la mise en onde, Mario Blouin pour le choix musical. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission de Vision d'Histoire.